Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Marie Treps, vous êtes linguiste, vous êtes sémiologue et vous publiez « Oh là là, c'est français, comment le monde parle de nous ». « Oh là là », c'était d'ailleurs le titre de nombreux quotidiens internationaux, moment où sont sorties les photos de François Hollande sur son scooter, vous le rappelez. Il vient d'où ce « Oh là là » ?
Ah, aucune idée, c'est une interjection. C'est vrai que...
Les étrangers l'emploient souvent.
Ah oui, oui.
Et seulement pour parler des Français.
L'associe systématiquement à la France. À Taïwan, il y a un jeune homme qui fait une émission de radio dans laquelle on apprend qu'il est très agréable d'avoir un ami français. Et on apprend aussi, au camp où on aura le bonheur d'en rencontrer un, quelques mots français. Et parmi ces mots, il y a « oh là là ». Donc même là-bas, dans la Chine lointaine... Le mot est connu.
C'est la même chose que le « voulez-vous coucher avec moi ».
Ah, « voulez-vous coucher avec moi », oui, c'est vrai. Mais ça, il y a une chanson entre-temps
qui l'a rendu très célèbre, évidemment.
«
Voulez-vous coucher avec moi ce soir ». Mais vous dites qu'on l'utilisait déjà phonétiquement presque. « Voulez-vous coucher
avec
moi ».
Oui, c'est ça.
Vous dites qu'au fond, ce sont à la fois les codes formels de la bienséance, typiquement français, mais au service d'une audace de voyou.
C'est encore une fois la faute à Napoléon. Enfin, il a donné le mauvais exemple au moment où d'une campagne... où il se trouvait en Allemagne, on raconte que les soldats qui avaient toujours l'intention de séduire des jolies filles leur disaient « voulez-vous visiter ma tante ?» C'est-à-dire, c'est une invitation directe, pas si courtoise que ça. Mais en fait, si on remonte plus loin, il faut savoir, les romans de courtoisie, les romans étaient écrits et publiés en français, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et le mot courtoisie est entré d'abord. La dégradation des choses est venue plus tard.
Alors dans « Oh là là, c'est français », vous vous amusez à la fois à confronter des notions qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais toutes nous concernent, nous les Français. Mmh. Par exemple, vous rappelez ce que signifie un bain français ou une douche française pour les anglo-saxons.
Ah oui, c'est peu d'eau, beaucoup de parfum, c'est très simple.
Au fond, ça remonte à Louis XIV, c'est Versailles.
Je pense que c'est Versailles, oui, où les phares, les perruques...
Oui, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de toilettes. Oui.
Mais en même temps, j'ai entendu dire en Amérique du Sud, olera française, qui mot à mot veut dire sentir français, en réalité ça veut dire puer. Donc notre réputation de malodorant est bien établie partout.
Oui, c'est vrai. Et c'est
il y a que les Chinois qui nous croient, paraît-il, tous blonds et parfumés.
Alors de même.
Ça rassure, non ?
Qu'est-ce que signifie faire une sieste française en Islande ?
En Islande, c'est passer sa journée à dormir. Pareil, toujours une anecdote derrière. Il y aura un fermier français qui se serait établi au fin fond d'un fjord et qui ne renonçait jamais à sa petite sieste. Après, on a exagéré parce qu'on ne prête qu'aux riches, donc...
On est paresseux.
On est paresseux et on dort.
On se lave pas et on est paresseux.
En Pologne, vous savez, on dit paresseux comme un français. C'est très désagréable, mais c'est...
En Hollande, qu'est-ce que ça signifie faire son travail à la française ?
Maître de Frans Slack, ça veut dire vite fait, mal fait, et on est content comme ça.
C'est très drôle parce qu'on se rend compte à quel point tous ces mots sont les autres nous voient, nous Français, comme cela, comme nous on en voit d'autres de la même manière.
Exactement, on pense à la même chose.
C'est le cas de la syphilis, qui est la maladie française, sauf que pour nous c'est le mal italien.
Oui, mais alors à travers les expressions maladie française, maladie italienne, maladie anglaise, etc., on peut suivre la progression de la première épidémie de syphilis. Parce qu'à chaque fois, chacun en fait...
reproche à celui qui l'avait avant lui.
Qui doit en assumer la paternité.
Le French shopping en Australie.
Ah oui, alors ça c'est nouveau. En Australie, les jeunes Français qui viennent passer un an pour étudier ont la fâcheuse habitude de servir dans les magasins mais d'oublier de payer.
C'est ce qu'ils disent, ce que prétendent les Australiens en tout cas.
Et en tout cas, le consul de France
vous l'a confirmé.
Est intervenu. Il a écrit une lettre en disant qu'il faudrait un petit peu revoir ce genre de conduite.
Alors donc, on volerait dans les magasins en Australie, mais c'est seulement en Australie, puisqu'on a...
J'en ai trouvé une preuve en Australie.
Ouais.
Je crois qu'en Italie, on dit la même chose aussi.
On serait donc dépensier, chapardeur, magouilleur, fraudeur, vous le
fraudeur,
disiez aussi.
Fraudeur, on dit aussi qu'en Belgique, ces gens riches qui viennent s'installer pour échapper à l'impôt français, Les Belges les ont avec humour baptisés les SDF, c'est-à-dire des sans-domicile fiscaux.
Alors on serait suffisant, arrogant. Il y a une blague belge qui dit que pour gagner de l'argent, il suffit d'acheter un Français au prix qu'il vaut et de le revendre au prix qu'il estime valoir.
Voilà.
Mais ça aussi, quand vous étudiez en tant que sémiologue, vous étudiez le langage des signes également. Pour vous, ce sont des signes de quel ordre tout cela ? C'est totalement rêvé ? Quelque chose et il y a quelque chose de vrai dans tout cela ?
Ce sont des clichés. Donc, dans une certaine mesure, c'est fantasmatique. Mais en même temps, c'est né de l'observation. Tout ça, c'est parce que la France a été en contact avec le monde, enfin avec l'Europe, de bonne heure. Et que les étrangers ont eu l'occasion de remarquer des habitudes qui paraissaient curieuses à leurs yeux. C'est aussi une question de... Les cultures sont différentes. Donc, des choses qui nous paraissent à nous, par exemple, notre manière un petit peu légère de faire les choses, un brin fataliste comme... qui est traduite par l'expression « c'est la vie ». Quand elle nous est empruntée par des étrangers, par exemple des étrangers d'Europe du Nord, qui sont des pays protestants où la culture est différente, la manière d'aborder les choses est peut-être plus sérieuse, pour eux c'est tout à fait exotique. Alors il y a un fond de vérité, mais il est réinterprété par des gens qui effectivement regardent ça comme une curiosité. Alors
au fond, les gens du Nord regardent les Français comme les Français parfois ont pu regarder les gens du Maghreb ou d'Afrique en leur reprochant leur fatalisme. Au fond, on serait les fatalistes des Scandinaves.
C'est toujours anthropocentriste en fait la vision qu'on a des autres et d'autrui. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que l'histoire est très importante. Les choses tombent pas du ciel non plus comme ça. Par exemple, au fur et à mesure d'événements historiques importants, l'opinion des Français a pu évoluer vis-à-vis des Français. Par exemple, Napoléon arrive en Hongrie, comme dans d'autres pays. Il est attendu avec l'idéal de la révolution, des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il est attendu avec beaucoup d'espoir, espoir qui a été déçu. Hop, tout de suite apparaît une expression. En hongrois, c'est Mensch Franka, ce qui veut dire mot à mot « va chez les Français ». En réalité, ça veut dire « va te faire foutre ». Donc, à ce moment-là, on a commencé à penser que les Français étaient des envahisseurs têtus et commencé à imaginer qu'ils pouvaient être des politiciens inconséquents. Ce qui s'est confirmé par la suite, à la suite des premières guerres mondiales. Par exemple, quand la Bulgarie a perdu une partie de son territoire, punie d'avoir appartenu au clan ennemi, au clan des vaincus, une expression française, avec des mots français, en bulgare, qui est pourtant une langue slave, garantie française, ça veut dire, un, une politique peu fiable, deux, un produit dont on n'est pas sûr de la qualité, garantie française, mieux vaut ne pas y toucher. Vous voyez, c'est ce qui m'a intéressé. Au fond, c'est l'histoire de la présence française en Europe qui est derrière tout ça.
De même qu'on nous voyait comme des conquérants du temps de Napoléon et qu'on a tendance après à nous voir comme des mauviettes sous prétexte que...
Absolument, on n'est pas allé en Irak. On n'a pas suivi la première campagne d'Irak et voilà.
Oui. On se retrouve avec Marie Treps dans un instant. On continue de parler de la façon dont le monde parle de nous.
20h, 22h,
Europe 1 Social Club,
Frédéric Taddeï.
Marie Treps dans « Oh là là, c'est français », votre livre qui paraît à la librairie Vuibert. Évidemment, on se souvient que la France a été une grande nation, qu'elle est le pays de la liberté, des droits de l'homme, de la révolution. Tout ça, ça reste intact. Dieu sait si nos hommes politiques ne cessent de l'invoquer. Nous sommes au regard du monde entier. Le monde, il a les yeux fixés sur nous en permanence parce que nous sommes le pays de la révolution et des droits de l'homme.
Fallu de peu que ça ne disparaisse. Les Allemands, depuis les journaux allemands, depuis deux décennies, parlent de la grande nation qui évoque effectivement, expression positive au départ, la Révolution française, les Lumières, avec une certaine ironie puisqu'ils ont ajouté un qualificatif, ils disent la grande nation autoproclamée, ça veut tout dire. Mais après les attentats de janvier, on voit défiler autour du président Hollande, des chefs d'État de différents pays d'Europe et d'ailleurs, défendre au fond les idéaux de rétablir la France qui défend les idéaux de la révolution et de la liberté d'expression. Donc, en fait, on n'est jamais à l'abri non plus d'un retournement de situation.
Le chic français, lui, ça va. Les habits,
alors, le chic français,
la table,
ça va très
la nourriture,
bien.
Ça ouais. continue de fonctionner dans le monde entier.
Alors, c'est plus la même chose. Hein. C'était avant le fait d'aristocrate. Aujourd'hui, et puis au 19e siècle, ça a été la bourgeoisie qui s'est emparée de ces codes-là et qui les a mis à l'honneur en Europe centrale. Plus, hein. Alors aujourd'hui, il reste quand même des choses. Il reste que les Américaines au moins savent ce que c'est que le talon Louis, qui était celui de Louis XIV, qui a une courbure particulière, qu'on a appelé aussi talon Pompadour, parce qu'évidemment, les femmes s'en sont emparées pour le mettre à la mode.
Vous, mais vous racontez on trouve aussi que la banane des rockers, ils appellent ça une Pompadour.
Oui, oui. Curieux. Hein.
Oui, bah oui, au fond, on peut imaginer que le petit trou qui est au milieu, c'est le même que celui des bigoudis.
Ah, peut-être, oui, peut-être. Mais aujourd'hui, alors la mode, on la retrouve en Asie. Ce sont des mots, ce ne sont plus... c'est des mots qui servent à vendre, qui servent... Par exemple, j'ai trouvé une enseigne d'un magasin qui vend des vêtements assez bobos, vaporeux, blancs, qui s'appelle Cul de France. Et le Cul de France, c'est ce qu'on a appelé longtemps en Europe le cul français, c'est-à-dire la tournure. Et alors là, c'est le mot qui évoque le chic français. Il ne reste plus que des mots évocateurs, mais ils sont toujours là. La gastronomie aussi est toujours là.
Et l'amour à la française est toujours là.
À la française.
Le French kiss, oui. Le French lover. Oui. Le French lover, ça marche encore?
Alors,
le mot est là,
mais... Il y a eu le dessin animé américain, là aussi, Pépé le Putois, qui est une caricature du French lover. Il parle français, il sent mauvais, on retrouve la même idée. Et puis, il a envie de sauter sur tout ce qui bouge. C'est un des surnoms qu'on a donné à Dominique Strauss-Kahn au moment de l'affaire du Sofitel, je crois.
Du Sofitel New York, donc, en effet. Ouais.
Et alors, il y a une opinion qui reste encore et qui s'est révélée, c'est que l'Europe, tous les autres qui ne sont pas français, forcément, ils parlent français. Ce qui était vrai, je me suis demandé, c'était pas un souvenir subliminal de ce qui se passait au XVIIIe siècle, où les aristocrates, les gens de cour, les gens éduqués parlaient, conversaient et parlaient en français.
Parlaient en français, s'habillaient.
Lisait les gazettes en français à Amsterdam, à Berlin. Mais alors aujourd'hui, en 2003, on revient en 2003, à la fin de la première guerre d'Irak, oui, c'est ça.
Non, c'est la première, c'était en 90, c'est
oui,
la guerre
oui,
du Golfe, au moment de l'invasion.
Au moment de la capture de Saddam Hussein, et Saddam Hussein sort de son trou. Il est un petit peu, il est mal rasé, il est comme un rému fatigué en maillot de corps. Et alors... Tout de suite, les dépêches américaines. Dans les dépêches américaines, on lit « He was speaking French ». La dépêche est reprise en français. Que faisait-il ? Il parlait français. Ben oui, naturellement. Au moment d'être capturé, il n'avait qu'une idée, c'est de parler français. Une faute de traduction, ça veut dire « to speak French », ça veut dire jurer, dire des grossièretés. Ce qui en dit aussi long sur nous, mais qui dit aussi que ben nous, on l'avait compris tout à fait normalement. Bien sûr, Saddam Hussein était en train de parler français.
Allez savoir, peut-être qu'il parlait français.
Peut-être qu'il parlait, mais en la circonstance, je ne pense pas qu'il l'ait... Je n'imagine pas. C'était vraiment une faute.
Revenons à l'amour à la française.
Oui.
Les femmes françaises sont considérées comme allumeuses.
Sexy, en tout cas. Allumeuses.
Allumeuses, oui, parce qu'on ne comprend pas. En fait, on fait toujours semblant. C'est typiquement français de faire semblant jusqu'au dernier moment qu'on n'est pas intéressé. C'est un truc, c'est notre manière de séduire.
Vous apprenez des choses.
Tous. Ben oui, vous le savez bien. Alors, elles, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on les traite d'allumeuses et d'un autre côté, vous dites aussi qu'elles ont une réputation de filles faciles.
Alors, ça, c'est les Américains qui ont débarqué après la Deuxième Guerre mondiale en France pour un petit peu réparer, etc. Étaient tout à fait choqués par les mœurs françaises. Ils pensaient que toutes les femmes étaient prostituées. Donc on leur a concocté, entre autres, ils avaient un tas d'autres idées reçues, on leur a concocté un petit manuel dans lequel on expliquait que non, si elles ont des jupes un peu courtes, c'est parce que malheureusement, elles ont dû les retailler dans d'autres plus longues, parce qu'avec la guerre, elles manquaient de tissu, etc. On est obligé de leur expliquer. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu préparés, je crois, à cette idée-là.
Le fait que les Français ne pensent qu'à ça, ça continue aujourd'hui de germer dans les esprits de tous nos contemporains.
Je pense que oui. Bah, l'affaire Strauss-Kahn, c'était très clair aussi.
Oui, c'était le bon prétexte pour remettre
ça sur le tapis. Mais dans les journaux américains, à ce moment-là, on a dit mais il y a une longue tradition en France
de libertinage
et de collusion entre le pouvoir et les mœurs un petit peu dégradées.
Tous nos présidents, voilà. ces derniers temps, ont eu chacun
se sont fait remarquer.
Voilà, se sont fait remarquer.
Alors donc, vous voyez, vous dites, c'est pas uniquement, c'est pas seulement fantasmatique en réalité. Mais ce qui ne nous choque pas peut choquer des gens qui ont des cultures différentes, dans laquelle une autre religion est prépondérante. Voilà.
Marie Treps, oui. Pendant toute cette longue étude, qu'est-ce qui vous a le plus surprise ?
La relation entre l'histoire et certaines choses, qu'on trouve aussi aujourd'hui dans des... Alors c'est l'influence européenne, mais qu'on trouve aujourd'hui au bout du monde encore des traces de cet amour pour le français. Je trouve aussi des choses, par exemple j'étais au Portugal au moment de la semaine française cette année, et j'avais en tête... J'avais lu ça, c'était livresque pour moi. Un personnage échappé d'une pièce du XVIIIe siècle, qui est un certain Jeannot, qu'on a oublié complètement en France, s'appelle Jeannota, en portugais, c'est la traduction. Et ce Jeannota, j'avais lu qu'il correspondait à un personnage qui un peu sophistiqué, un peu efféminé. On nous croit aussi beaucoup efféminés, enfin les hommes français. J'ai demandé, on m'a dit mais non, le Jeannota, on sait ce que c'est, il s'habille trop bien, en des circonstances où ça ne le mérite pas, ce qui traduit une certaine prétention. Et souvent, à propos de choses diverses, de mots divers, je suis retombée sur cette prétendue, ou je ne sais pas...
Prétention
prétention française.
Il y a cette blague italienne que vous racontez. Un tiers des Français croient encore que le soleil tourne autour de la Terre et deux tiers que le soleil tourne autour de la France.
Oui, mais enfin, moi, je l'ai relu trois fois avant de comprendre. C'est pas possible.
Moi, je l'ai trouvé tout de suite très drôle.
Ah oui, il est drôle.
Merci, Marie Treps. Oh là là, c'est français. Comment le monde parle de nous, du pire au meilleur. C'est paru à la librairie Vuibert.